Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler des corbeaux anonymes. Il existe une violence qui ne laisse aucune trace visible. Pas de coups, pas de cris, pas de sang. Une violence qui arrive pliée en quatre, glissée dans une enveloppe, déposée dans une boîte aux lettres. En France, cette violence porte un nom, le corbeau. Celui ou celle qui écrit anonymement pour accuser, humilier, menacer. Celui ou celle qui observe sans se montrer, qui sait sans dire comment, et qui frappe sans jamais apparaître. L'histoire des corbeaux anonymes est une histoire ancienne, profondément française, ancrée dans les villages, les familles, les administrations, les entreprises. Une histoire qui montre comment quelques mots, écrits à la main, peuvent suffire à faire basculer une communauté entière dans la peur et la suspicion. Tout commence véritablement pendant la Première Guerre mondiale, dans une ville de Corrèze, Tulle. À cette époque, la France est déjà traversée par l'angoisse, la pénurie, les deuils, la surveillance morale. Et dans ce climat tendu, des lettres anonymes commencent à circuler. Elles n'arrivent pas par la poste de manière classique. Elles sont déposées discrètement sur des bancs, glissées dans des paniers, abandonnées dans des lieux publics. Très vite, leur contenu choque. Elles accusent des habitants d'adultère, de corruption, de comportements immoraux. Elles dénoncent des relations secrètes, parfois réelles, parfois inventées. Elles ne signent jamais, mais elles savent trop. Dans l'une de ces lettres, on peut lire « Vous êtes cornard, votre femme se promène partout avec X, tout le monde le sait, sauf vous. » Dans une autre, une telle ne mérite pas le respect qu'on lui porte. Elle se rend chez un tel quand son mari est absent. Ou encore, un tel vole à son travail. Il se croit à l'abri, mais la vérité sortira. Ces phrases, écrites sans fioriture, sans style, ont un effet immédiat. À Tulle, chacun commence à regarder l'autre différemment. Les conversations se figent, les regards s'évitent. Les accusations ne sont pas toujours crues, mais elles sont suffisamment plausibles pour semer le doute. Et le doute suffit. Ce qui rend ces phrases insupportables, ce n'est pas seulement ce qu'elles disent, mais ce qu'elles suggèrent. Quelqu'un observe, quelqu'un juge, quelqu'un décide qui mérite d'être exposé. Les lettres se multiplient, plus d'une centaine en quelques années. Certaines sont violentes, d'autres ironiques, d'autres encore prétendument moralisatrices. L'auteur, ou les auteurs, signent parfois de pseudonymes, comme pour se donner une existence symbolique. Mais jamais de nom réel, jamais de visage. À Tulle, la peur devient collective. On parle du corbeau. Le mot s'impose. Il entre dans le langage courant. Et surtout, il désigne désormais une figure précise. Celle qui attaque, sans se montrer. Des enquêtes sont ouvertes, des expertises d'écriture sont tentées, une femme sera condamnée. Mais le doute persistera. Est-elle seule? Était-elle vraiment l'auteur de toutes les lettres? L'affaire laisse une trace durable dans la mémoire collective. Elle inspire des œuvres de fiction, mais surtout, elle fixe un modèle. Désormais, en France, quand des lettres anonymes apparaissent, on parle immédiatement d'un corbeau. Des décennies plus tard, cette figure réapparaît dans l'une des affaires les plus tragiques de l'histoire judiciaire française, l'affaire du petit Grégory. Avant même le meurtre de l'enfant, une famille est ciblée, les Villemain. Des lettres arrivent, puis des appels téléphoniques, une voix rauque, agressive, des menaces, une obsession. La première lettre connue arrive un jour de mars, elle est écrite en lettres capitales, brutes. Sans détour. Je vous ferai votre peau à la famille Villemain. La faute d'orthographe est là. Elle sera retrouvée dans plusieurs courriers. Comme une signature involontaire. La lettre n'explique rien. Elle menace. Elle annonce. Elle s'inscrit dans la durée. D'autres suivront. Quelques semaines plus tard, une autre lettre arrive chez les grands-parents. J'espère que tu mourras de chagrin. Vous payerez tous. Puis une autre. Vous vous croyez arrivé, mais vous allez comprendre. Ces lettres ne sont pas de simples insultes, elles s'inscrivent dans un harcèlement constant. Elles accompagnent des appels anonymes, elles visent un homme, Jean-Marie Villemain, perçu comme trop visible, trop réussi, trop différent dans une famille élargie où les tensions sont anciennes. Les lettres exploitent ces fractures, elles les creusent. Après la mort de Grégory, une nouvelle lettre arrive. Elle est d'une cruauté extrême. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils. Voilà ma vengeance. » Ce courrier n'apporte aucune information utile à l'enquête. Il ne revendique pas clairement le meurtre. Il cherche autre chose. Prolonger la souffrance. Maintenir la domination psychologique. Exister par la douleur infligée. Pendant des années, ces lettres vont hanter l'enquête. Elles orientent, elles désorientent, elles accusent sans preuve, elles transforment chaque proche en suspect potentiel. Certaines lettres sont plus longues, plus construites, presque narratives. Vous avez toujours méprisé les autres, vous avez cru pouvoir faire ce que vous vouliez. Maintenant, vous savez. D'autres sont lapidaires. Prochaine victime, Monique. Ces mots-là ne sont pas seulement lus, ils sont attendus, redoutés. Chaque arrivée de courrier devient un moment de tension. Chaque enveloppe est une menace potentielle. Et surtout, chaque lettre rappelle une chose essentielle, le corbeau n'a pas besoin d'agir pour faire peur. Il suffit qu'il écrive. Ce que montrent ces affaires, c'est que le corbeau n'est pas un fou isolé écrivant au hasard. Il observe, il connaît les failles, il choisit ses mots. Il sait que l'anonymat le protège et il sait surtout que dans une société où la réputation compte, la simple accusation suffit à détruire. Dans d'autres affaires françaises, moins connues mais tout aussi destructrices, le scénario est identique. Des villages entiers reçoivent des lettres, des maires, des instituteurs, des commerçants, toujours les mêmes thèmes. La morale, l'argent, le sexe, le pouvoir. Toujours la même mécanique. Divisé, isolé, fragilisé. Une lettre typique dit par exemple « Tout le monde sait ce que vous faites, vous devriez avoir honte. » Une autre « Si vous saviez ce que je sais, vous dormiriez moins bien. » Ces phrases sont vagues, c'est volontaire. Le flou est une arme, il permet à chacun de projeter ses propres peurs. Et c'est précisément ce qui rend le corbeau si efficace. Avec le temps, les techniques évoluent. Les expertises aussi. On compare les écritures, on analyse les tournures de phrases, les fautes récurrentes, le rythme. Parfois, on identifie un auteur, parfois non. Mais lorsqu'un corbeau est confondu, les dégâts sont faits. Les relations ne se réparent pas. La suspicion reste. Ce que racontent ces lettres, au fond, ce n'est pas seulement la méchanceté d'un individu. C'est la fragilité d'un lien social, le fait qu'il suffit de quelques mots anonymes pour faire vaciller des certitudes, briser des familles et transformer une communauté en champ de mine relationnel. Le corbeau ne tue pas toujours, mais il détruit lentement. Par la répétition, par l'attente, par la peur, et c'est peut-être pour cela que, plus d'un siècle après les lettres de Tulle, la figure du corbeau continue de hanter l'imaginaire français. Si les grandes affaires judiciaires ont donné au corbeau une visibilité nationale, l'immense majorité des lettres anonymes en France n'ont jamais franchi les murs d'un tribunal médiatisé. Elles se sont déployées ailleurs, dans des villages de quelques centaines d'habitants, dans des quartiers pavillonnaires, dans des administrations, dans des entreprises, là où tout le monde se connaît suffisamment pour que la moindre accusation fasse mouche, mais jamais assez pour qu'on puisse identifier avec certitude celui ou celle qui écrit. Dans ces contextes-là, les lettres anonymes suivent presque toujours le même schéma. Elles arrivent par vagues. Une première lettre, souvent prudente, presque timide. Elle se contente de suggérer. Vous n'êtes pas aussi irréprochable que vous le croyez. Ou bien, il serait temps que certaines vérités soient dites. Ces premières lettres servent à tester le terrain, à voir si la rumeur prend, si la victime se tait, si elle s'agite, puis viennent les suivantes, plus directes, plus précises. On sait que vous détournez de l'argent. Tout le monde parle de vos absences quand votre conjoint n'est pas là.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les abbayes. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche elle sera sur la falaise, où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Dans certaines communes françaises, des dizaines de personnes ont reçu, parfois le même jour, des courriers anonymes identiques ou très proches. La même écriture, les mêmes fautes, le même ton faussement moral. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'écris, mais il est temps que cela cesse. Cette phrase revient souvent. Elle installe l'idée que l'auteur agit à contre-cœur, presque par devoir, comme s'il était contraint de dénoncer. Ce qui frappe les enquêteurs lorsqu'ils peuvent consulter ces lettres, c'est leur banalité apparente. Il n'y a pas de grande envolée, pas de style littéraire. Les phrases sont simples, courtes, presque plates, et c'est précisément cette simplicité qui les rend crédibles. Elles ressemblent à ce que n'importe qui pourrait écrire. Elles pourraient venir de n'importe où, de n'importe qui. Dans certaines affaires, le corbeau va jusqu'à se mettre en scène comme un collectif imaginaire. Nous sommes plusieurs à ne plus supporter ce que vous faites. Ou encore, beaucoup pensent comme moi, mais personne n'ose parler. Cette stratégie est redoutable. Elle isole la victime. Elle lui donne le sentiment d'être entourée d'ennemis invisibles. Et surtout, elle transforme le doute individuel en soupçon collectif. La victime ne se demande plus seulement qui écrit, mais combien sont d'accord avec ce qui est écrit. Dans des dossiers judiciaires moins connus, on retrouve des extraits glaçants de lettres adressées à des élus locaux. « Vous devriez démissionner avant que tout ne sorte. Nous savons ce que vous avez fait avec l'argent de la commune. » Parfois, aucune preuve ne suit. Parfois, les accusations sont entièrement fausses, mais le mal est fait. La lettre circule, elle est photocopiée, Elle est déposée chez d'autres habitants. Elle devient rumeur. Il arrive aussi que le corbeau cible une personne précise pendant des années. Une femme célibataire, un professeur, un chef d'entreprise. Les lettres s'accumulent, toujours anonymes, toujours insistantes. Vous ne trompez personne. On vous observe. Vous devriez avoir honte. Dans certains cas, le ton change brusquement. La menace apparaît. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une lettre. Ou, vous avez été prévenu. Ces phrases-là marquent un basculement. Elles transforment la peur sociale en peur physique. Et souvent, c'est à ce moment-là que les victimes portent plainte. Mais sans signature, sans empreinte exploitable, sans témoin, les enquêtes piétinent. Le corbeau le sait. Il joue avec cette lenteur. Il écrit à nouveau. Certaines lettres sont d'une précision troublante. Vous êtes rentré à 22h47, mardi dernier. Vous étiez avec telle personne. Ces détails donnent l'impression d'une surveillance constante. Parfois, ils sont exacts, parfois, ils sont inventés. Mais dans les deux cas, ils installent une angoisse durable. Qui observe? D'où? À quel moment? Avec le temps, certaines victimes finissent par se soupçonner elles-mêmes. Elles relient leur passé. Elles cherchent ce qui aurait pu provoquer ces lettres. Elles s'isolent. D'autres sombrent dans une forme de paranoïa. Chaque bruit devient suspect, chaque voisin devient un potentiel auteur.
va quelque part. Je m'en irai toute seule sans ton aide. Je comprendrai un petit peu plus ce que je fais là. Mais vois-tu, je comprends jamais. J'ai toujours perdu.
Plusieurs affaires françaises documentées, le corbeau s'est révélé être quelqu'un de très proche, un collègue, un membre de la famille, un voisin immédiat, quelqu'un qui partageait le quotidien de la victime. Et souvent, le mobile n'était ni l'argent ni la justice, mais quelque chose de plus diffus, la jalousie, la rancœur, le ressentiment. Une lettre retrouvée dans un dossier de harcèlement anonyme disait simplement « Tu as toujours cru valoir mieux que les autres, il est temps de redescendre. » Ces phrases résument à elles seules une grande partie des motivations des corbeaux. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il s'agit de rééquilibrer, de rabaisser, de faire tomber quelqu'un de son piédestal, réel ou imaginaire. Le corbeau ne supporte pas l'asymétrie, il écrit pour la corriger. Avec l'arrivée des technologies modernes, certains ont prédit la disparition des lettres anonymes manuscrites. Il n'en est rien. Si les mails anonymes et les messages numériques ont pris une place importante, la lettre papier conserve une puissance particulière, elle est tangible, elle s'ouvre, elle se lit lentement, elle peut être relue. Conservée, elle laisse une trace matérielle et, paradoxalement, elle semble plus sérieuse, plus réfléchie. Certaines lettres anonymes sont longues, très longue. Elle raconte une histoire, elle détaille des faits, elle accumule les accusations sur plusieurs pages. Tout a commencé quand ? Vous vous souvenez sûrement d'eux ? Ces lettres-là sont souvent les plus destructrices, car elles donnent l'illusion d'une enquête, d'un dossier constitué, d'une vérité cachée que seul le corbeau aurait le courage de révéler. Dans des villages entiers, des habitants ont vécu pendant des mois, parfois des années, sous la menace de ces courriers. Certains ont quitté la région, d'autres ont changé de travail, quelques-uns ont sombré dans la dépression. Très rarement, le corbeau est identifié rapidement. La plupart du temps, il disparaît de lui-même, laissant derrière lui un champ de ruines relationnelles. Ce qui frappe quand on met bout à bout toutes ces affaires françaises, connues ou anonymes, c'est la constance des mécanismes. Le corbeau n'écrit jamais pour dialoguer, il écrit pour dominer. Il ne cherche pas de réponse, il cherche une réaction. La peur, le doute, le silence. Et surtout, il s'appuie sur une certitude. Tant qu'il reste anonyme, il existe sans risque. Il est une voix sans corps, une accusation sans visage, une présence impossible à saisir. Et c'est précisément cette absence qui fait sa force. Aujourd'hui encore, dans certaines communes, des lettres anonymes circulent. Elles arrivent dans les boîtes aux lettres, elles sont lues à voix basse, elles sont parfois déchirées immédiatement, parfois conservées, mais elles produisent toujours le même effet. Elle rappelle que le lien social est fragile et que quelques mots suffisent à l'ébranler. Le corbeau n'est pas un monstre exceptionnel, il est souvent ordinaire, invisible, insoupçonnable. Et c'est peut-être pour cela que ces lettres continuent de faire si peur, parce qu'elles viennent nous rappeler que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais parfois de celui qui écrit tout près, dans le silence, convaincu d'agir dans l'ombre. Les lettres anonymes ne sont pas simplement des mots posés sur du papier, elles sont le reflet des tensions, des rancunes et des jalousies qui traversent les familles, les villages, les communautés. Elles révèlent combien le lien social peut être fragile et combien quelques phrases écrites dans l'ombre suffisent à semer le doute, la peur ou la haine. Le corbeau n'agit pas par hasard. Il observe, il choisit ses cibles avec soin, il exploite les failles et il sait que l'anonymat le protège tout en lui donnant un pouvoir immense. Ses affaires montrent que la violence n'est pas toujours visible. Elle peut se glisser dans des enveloppes, des mots simples et frapper autant l'esprit que la réputation. Elle nous rappelle aussi que le corbeau n'agit pas seul dans un vide social. Ses lettres trouvent écho parce qu'elles exploitent des fragilités, des rancunes et des secrets, des rivalités déjà présents. Elles transforment des suspicions latentes en peurs concrètes, isolent les individus et peuvent déchirer des familles ou des communautés entières. Dans les villes comme dans les villages, elles font surgir une inquiétude diffuse. Qui écrit ? Pourquoi ? Et surtout, qui d'autre est impliqué ? La peur est alimentée par le silence et l'inconnu, devient alors presque plus lourde que les accusations elles-mêmes. Au fond, ces affaires nous enseignent que la menace n'est pas toujours visible. Elle peut se cacher derrière l'anonymat, derrière des mots simples mais puissants, capables de bouleverser des vies. Elle rappelle que le lien social, fragile, peut être détruit par quelques phrases, par quelques lettres déposées dans l'ombre. Et elle nous montre enfin que le danger ne réside pas seulement dans ce qui est écrit, mais dans ce que ces mots déclenchent. La méfiance, l'angoisse, la haine, parfois pendant des années. Dans l'histoire des corbeaux anonymes, la violence psychologique se déploie dans le silence et dans l'incertitude, et c'est précisément cette invisibilité qui lui confère son pouvoir le plus redoutable. Je me suis servi d'Internet pour créer cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain.